Chers voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des repates. Vous en connaissez sûrement dans votre entourage. Ils sont souvent jeunes, diplômés loin de chez eux et ils décident un jour de rentrer au pays pour participer à l'avenir du continent africain. On les appelle donc les repates. Depuis la crise financière de 2008 qui a secoué l'Europe, les États-Unis et le décollage économique d'une partie du continent africain, eh bien ces repates sont de plus en plus nombreux, même s'il existe peu de statistiques sur ces migrants inversés, comme disent certains. Il suffit de lire le roman Americana de la Nigériane Adichie, de best-seller aux États-Unis, pour comprendre en tout cas qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes à leur retour. Alors quelles sont leurs motivations? Comment s'intègrent-ils à la société qu'ils ont quittée il y a des années? Quelles difficultés doivent-ils surmonter? Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous ce que vous pensez des repates rentrés pour construire son projet au pays. Est-ce un signe de vraie réussite professionnelle, sociale? Appelez-nous dès maintenant pour dialoguer avec nos repates au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, si vous êtes un repate dans votre pays, vous nous appelez. Nous allons en discuter donc avec nos invités. Dans le studio des 7 milliards, Patricia Cacou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivée en France à l'âge de 7 ans, vous avez travaillé comme avocate au barreau de Paris et vous êtes repartie au Cameroun pour fonder un cabinet de conseil juridique à Douala qui s'appelle Ahead. Et là, vous êtes de passage en France.
Cameroun.
Kountel Khan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née en France de parents maliens, vous avez décidé de vous installer dans le pays de vos origines, vous travaillez pour une ONG allemande. Alors, vous vous considérez comme une repate ou une expat? Qu'est-ce que vous êtes, vous, Kountel?
Je ne sais pas, je viens de découvrir que j'étais une diasporée.
Une diasporée. On entendra aussi le témoignage de Jean-Luc Agboyibo qui est reparti au Togo pour travailler dans le domaine du sport. Il est aujourd'hui à Abidjan. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Jean-Luc?
Je suis avec vous, je suis là.
Voilà, alors là, vous êtes en ce moment à Abidjan, mais vous êtes bien installé au Togo après combien d'années en France?
J'ai passé 14 années en France, je suis rentré m'installer au Togo, mais je vis depuis un peu plus d'un an à Abidjan.
D'accord. Et Jean-Baptiste Meyer est également avec nous, il est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Bonjour Jean-Baptiste Meyer.
Bonjour à vous tous.
Vous êtes spécialiste des migrations et des diasporas et vous êtes à Montpellier en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Héros. Nous serons aussi en ligne tout à l'heure avec Aziz Nafa à Alger. Il est chercheur, spécialiste de toutes ces questions et repate lui-même. Voilà, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. L'émission est consacrée aux repates. Je vous lis quelques commentaires qui sont postés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter, bien sûr. Mohamed, qui est à Conakry, nous dit « C'est excellent pour le continent que les jeunes reviennent après de bonnes études. Sinon, à quoi servent leurs connaissances si elles ne profitent pas à leurs frères ?» Mais il y a aussi des voisins plus sceptiques. Mas, qui est à Paou, à l'ouest de Cotonou, au Bénin, décidé après de bonnes études en Europe de revenir vers son pays, c'est une très bonne idée. C'est comme ça qu'on construit son pays. Seulement, les salaires sont moins importants ici. Donc, les repates se font rares. Oui, Kountel, je vois un petit signe d'approbation. Oui.
Non, pas vraiment, mais bon, il y a toujours ce genre de commentaires. On ne comprend pas vraiment pourquoi on retourne au pays.
Ah oui, différence salariale, donc. Pape, qui est à Dakar, nous dit « J'ai vu quelques repates ici, mais au bout de 2 ans, ils échouent dans leur projet. Ils se font très souvent avoir et escroquer. » Vous nous direz si vous vous êtes fait escroquer, Patricia Cacou, au Cameroun?
Non, pas encore.
Bachir, qui est à Dakar également, nous dit « Eh bien moi, mon père a été un repate. Il s'est auto-expatrié en France lorsqu'il avait 37 ans. Il voulait gagner en expérience, mettre de l'argent de côté pour revenir plus fort chez lui. Lorsqu'il est retourné au Sénégal à 60 ans, il a voulu créer son restaurant, mais ça n'a pas marché parce qu'il avait été coupé trop longtemps de la réalité de son pays d'origine. Il avait oublié les prix des loyers, le coût de l'électricité et les nombreuses difficultés auxquelles nous sommes confrontée en Afrique. Vous vous reconnaissez dans ce témoignage, en partie ou pas, sur les difficultés ?
Sur les difficultés, Patricia. Je pense que dans les témoignages qu'il y a eu, il y a différentes réponses qu'on peut apporter. Concernant les salaires, je pense que effectivement le niveau de vie n'est pas pareil. Ensuite, lorsqu'on a étudié en Europe et qu'on retourne en Afrique, c'est vrai qu'on peut se targuer peut-être d'une certaine expertise. Et il faut accepter dans un premier temps de commencer peut-être à un niveau moindre qu'un salaire ou une rémunération qu'on aurait en France. Mais très rapidement, je pense qu'on arrive à avoir le même niveau de vie, voire au-delà. Parce que le coût de la vie n'est pas nécessairement le même. Et on peut avoir une très belle qualité de vie en étant repate.
Il vous reste à nous appeler maintenant. Que vous soyez repate ou que vous côtoyez des repates dans votre ville sur le continent africain au 33 1 84 22 71 71. Mais bien sûr, tous les bienvenus, tous les 7 milliards de voisins sont les bienvenus, pas seulement sur le continent africain, car ce phénomène, bien sûr, on le retrouve ailleurs. 33 1 84 22 71 71. Patricia Kaku, revenir en Afrique, ça correspondait à un désir profond ou à une stratégie professionnelle pour vous qui étiez avocate au barreau de Paris en France hein ?
Alors, je suis toujours avocate au barreau de Paris. Oui, ça partait d'un désir profond, d'un projet personnel. Et j'avais à cœur, en fait, pour moi, la France reste mon pays. Elle m'a accueilli à l'âge de 7 ans. J'y ai fait mes armes, j'ai vécu de grandes histoires pour moi, donc la tâche reste très forte. Après, par rapport à mon expérience professionnelle, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, rien qu'à Paris, nous sommes plus de 24 000. Et des gens avec mon profil, mon expertise, j'ai envie de dire qu'il y en a pléthore. Donc l'idée, c'était de pouvoir partir en Afrique et apporter ce que la France m'a apporté, l'Europe. Donc c'est toujours cette idée de transmission, de transmettre. Donc
c'est vrai. Ça a mis du temps, ça, cette idée de, enfin, ce cheminement pour décider. Bah ça y est, je pars, je monte ma boîte
progressivement.
Ça a pris combien de temps ?
Oh, je dirais que par opportunité professionnelle, c'est vrai que je suis arrivée au Cameroun il y a 3 ans de cela, et donc progressivement, j'avais déjà il y a longtemps l'idée de partir en Afrique, mais ces missions directement sur le continent m'ont donné effectivement l'envie de m'installer, m'ont conforté dans ce désir. Mais effectivement, il ne faut pas que l'aspect financier soit la première motivation.
Et c'est une idée qui a mis plusieurs années à mûrir.
Oui, hein. Quand même.
Jean-Luc Agboyibo, à Abidjan, rebonjour. Alors vous avez quitté la France pour monter une entreprise sociale dans le domaine du sport. Hein. C'est bien cela. À Abidjan et au Togo, c'est ça ? Vous êtes à cheval sur deux pays ou complètement à Abidjan maintenant ?
Alors, j'ai commencé par le Togo et dans les mois à venir, nous allons être à cheval sur les deux pays. Mais je suis venu à Abidjan avant tout pour travailler pour Canal Plus Afrique, qui m'avait offert une opportunité de rejoindre l'équipe de la Plus, la nouvelle chaîne que le groupe a montée il y a un peu plus d'un an.
Mais là, depuis, vous avez monté votre propre entreprise, donc.
Exactement. Et il y a 3 ans, un peu avant de quitter la France, alors, j'avais lancé un projet.
Racontez-nous, vous êtes diplômé en France, pourquoi vous avez décidé de repartir sur le continent africain ?
Alors, j'ai été diplômé en 2011. Pour certains, c'est une année qui a été un peu délicate, c'était l'année de la circulaire Guéant. C'était une loi un peu restrictive.
Pour les diplômés étrangers, pour les étudiants étrangers qui étaient venus faire des études en France et qui ensuite n'avaient plus l'opportunité, la possibilité légale de travailler quelque temps en France avant de repartir.
Exactement. Donc ça a été une année plutôt difficile. Donc c'est une année durant laquelle j'ai eu la chance de rencontrer les dirigeants de la NBA Afrique. Et ensemble, on a essayé d'imaginer un projet pour accompagner les jeunes Togolais. Donc à l'époque, je vivais en France. Et ça m'a un peu poussé à rentrer. J'ai vu l'engouement qu'il y a eu autour de nos premiers événements et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Il me restait à peu près 6 mois sur mon titre de séjour et je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu l'année précédente. Donc je suis parti sur le continent en juin 2013 et un mois après, là où je peinais depuis un an à trouver un emploi en France, j'ai eu un très bon boulot dans une entreprise qui s'était implantée. C'était un mini fonds d'investissement. qui avait un plan, qui avait lancé un projet dans le sport, Africa Top Sport. Donc du coup je suis resté et j'ai eu un salaire plutôt intéressant, donc ça m'a motivé à construire quelque chose au pays.
Ouais. Jean-Luc Agboyibo, la ligne se dégrade énormément à Abidjan. On va essayer de vous rappeler pour pouvoir vous redonner la parole, car votre témoignage et votre expérience est très intéressante. Kountel Kane, vous êtes née en France, française, deux parents maliens. Pourquoi avoir décidé, vous avez fait des études en France, pourquoi avoir décidé de vous installer au Mali?
Je crois que j'ai toujours voulu vivre au Mali. Mes parents... ont toujours, à travers leurs récits, décrit un pays avec une certaine chaleur humaine. Et puis, j'y allais pendant les vacances. Et j'ai toujours voulu travailler au Mali, toujours voulu m'y installer. Donc, j'ai orienté mes études dans ce sens-là. J'ai fait de la sociologie, mais toujours avec ce côté migration. Parce que la migration, les migrations font partie de mon histoire. Que ce soit l'histoire familiale ou à travers les personnes qui venaient chez nous à la maison. Et donc, j'ai fait de la sociologie du développement, des migrations, et je me suis dit que j'allais tenter ma chance là-bas, parce que c'était assez compliqué ici. J'ai tenté une première fois en 2010, ça n'a pas marché, l'expérience a été assez décevante, puis je suis revenue ici, et je pense que je n'étais pas assez mature. Je suis revenue ici. Et après, j'ai eu quelques difficultés au niveau professionnel, comme la plupart des personnes qui retournent, enfin qui y vont, parce que moi, j'y suis allée, j'y suis pas retournée. Et j'ai pris mon billet, c'était un billet pour 3 mois au départ, et j'ai déposé mes dossiers un peu partout, et j'ai répondu à une offre, et maintenant, je suis là-bas depuis presque 1 an et demi.
Vous travaillez pour une ONG allemande.
Oui, c'est ça.
Vous évoquez ces difficultés, Patricia Kakou. Vous avez dit plus pudiquement, j'avais envie finalement d'apporter une expertise sur le continent africain, que, alors qu'on est très nombreux en France. Et c'est vrai que des avocats au barreau de Paris, vous avez donné le nombre, c'est impressionnant. Est-ce que, pour vous poser la question de façon plus cash, est-ce que vous aviez le sentiment, en étant d'origine africaine toutes les deux, d'avoir un plafond de verre au-dessus de la tête en France?
Alors moi, j'ai jamais eu ce sentiment, et je pense que j'aurais pu très bien réussir ma carrière en France parce que j'avais des opportunités. Disons que je ne suis pas partie par dépit ou parce que je me disais que je n'y arriverais pas ici. C'était vraiment...
Mais sans parler de dépit, l'idée d'avoir envie d'aller plus loin, plus haut.
Oui. Oh, c'est vrai que j'avais conscience que j'y arriverais certainement plus facilement en Afrique. Parce qu'il y a ce besoin d'expertise. Mais je ne voyais pas l'impossibilité d'y parvenir en restant en France.
Et pour vous,
moi, je crois que la deuxième fois où je suis partie au Mali, il y avait aussi ce ras-le-bol-là. Parce que j'étais confrontée à certaines difficultés dans ma recherche d'emploi. Et je crois que c'est à la suite d'un entretien où on m'a demandé les raisons pour lesquelles mes parents étaient venus en France, que là, je me suis dit « Ah, c'est le moment de partir ». Et ça, c'est un entretien qui m'a perturbée.
Question singulière, c'est vrai.
Singulière et qu'on ne doit pas poser, qu'on n'a pas le droit de poser. Et c'est une question qui m'a vraiment interpellée. Et là, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, voilà maman, là maintenant, je pars au Mali.
Est-ce que vos proches ont compris quand vous avez dit je pars, je repars pour vous, Patricia Kakou?
Alors, mon cas est assez particulier parce que je suis née à Abidjan, donc française, mais d'origine ivoirienne. Et donc, m'installer au Cameroun, c'était encore plus mystérieux pour mon entourage. Mais bon, ils me connaissent, donc ils ont toute confiance en mes capacités. Donc, ils m'ont plutôt encouragée, mais c'est vrai qu'il y a un certain scepticisme.
Vos deux parents sont ivoiriens ?
Alors, mon père est américain et ma mère, ivoirienne, française.
Ouais, c'est toujours compliqué dans ces trajectoires. Mais néanmoins, vous aviez surtout envie de repartir sur le continent africain.
Oui,
c'est
tout
ça,
à fait.
Hein, oui. Et pas spécialement
en Côte d'Ivoire. C'est vrai que lorsque j'ai commencé vraiment à orienter mon projet, ça se dirigeait vers la Côte d'Ivoire. Mais finalement, c'est le Cameroun qui est arrivé, question d'opportunité. Et donc, pour moi, c'était l'Afrique après tout. Donc, Côte d'Ivoire au Cameroun.
Et pour vous, on vous a de nouveau au téléphone, Jean-Luc Agboyibo à Abidjan. Vous aviez le sentiment d'un plafond de verre en France ou pas?
Oui, ce plafond de verre existe. Hein. Moi, j'ai été confronté à... j'ai eu des entretiens dans des entreprises qui m'intéressaient et que je ne vais pas citer, mais j'ai très vite compris que je n'aurais pas ma place, qu'on ne me laisserait pas m'exprimer. Et oui, ça existe en effet en France.
Vous nous appelez, les voisins, les voisines, si vous êtes repates sur le continent africain ou ailleurs, hein, bien sûr, ou si vous côtoyez ces hommes et ces femmes qui ont décidé de revenir au pays, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des motivations et on parle aussi des difficultés pour la réinstallation ou l'installation.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, mais entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Jean-Baptiste Meyer, vous êtes à Montpellier, chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Est-ce que ce phénomène des repates, je ne sais pas d'ailleurs si vous acceptez le mot ou pas, mais est-ce que cela correspond aujourd'hui à une vraie réalité ou bien c'est encore un phénomène extrêmement marginal ?
Alors, pour accepter le mot, il faudrait qu'il corresponde parfaitement à la situation. Or, les trois témoignages que nous venons d'entendre sont très intéressants parce qu'ils révèlent justement un attrait pour un retour vers le continent africain. On voit que Jean-Luc Aboyogbo est retourné non pas dans son pays mais dans un pays voisin, de même que Patricia et
alors
et
pour donc, Kuntel c'est pas tout à fait le cas, mais effectivement Kuntel, vous avez raison.
Pour Kuntel, vous constatez qu'elle travaille pour une ONG non pas française ni malienne mais allemande, donc vous voyez qu'il y a vraiment du transnational.
Bon, si les auditeurs arrivent à s'y retrouver dans tous vos parcours là, ça...
Exactement, je crois que c'est un trait intéressant et distinctif finalement de ce qu'est cette réalité du repat, c'est-à-dire que c'est plus un expat transnational qu'un repat communautariste qui serait ancré dans une approche nationaliste de contribution immédiate à son pays.
Et non, c'est peut-être la nouveauté peut-être de ces dernières années, non ? C'est ce côté village global ?
Oui, je crois que c'est absolument ça.
La souplesse, la capacité d'adaptation ?
Oui. Et c'est une possibilité, une certaine plasticité de l'acteur migrant, de l'acteur de la diaspora, qui est capable de s'insérer ou de se reconstruire un avenir professionnel dans des conditions et des situations assez diverses. Et je pense que ça dément une certaine approche communautariste ou nationaliste aussi de la migration. On est là devant des profils qui sont... très sûrement assez complexe, mais aussi très ouvert et très généreux, avec une dimension de retour qui s'inscrit dans une perspective professionnelle, bien sûr. On voit qu'il y a le sens de l'opportunité, de saisir ce qui se présente, etc. Mais aussi le désir de contribuer à des processus de développement de sociétés nouvelles, de sociétés émergentes, de sociétés en développement, comme c'est le cas au Sud. Alors, vous me demandiez, est-ce que c'est un phénomène assez général ? Oui, pour les situations que nous étudions en Amérique latine, l'Amérique latine comme l'Afrique ont été ces 10 dernières années des régions très très dynamiques, économiquement avec des taux de croissance importants, et il y a eu beaucoup de retours. Pour autant, ce ne sont pas des retours nécessairement définitifs, et ce sont parfois aussi des retours qui échouent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des réussites. Oui. Même dans de bonnes conditions comme celle-ci.
De même, on a des Indiens qui ont fait leurs armes dans la Silicon Valley américaine et qui reviennent en Inde, vu le très grand dynamisme économique sur le plan de l'informatique en Inde. Vous avez, Patricia Kyaku, Kuntel Khan, Jean-Luc Aboyogbo, vous avez tous les trois la nationalité française, hein, bien évidemment.
Oui.
Oui. Jean-Luc aussi, hein, j'imagine.
Non, pas. Non.
Ah non, vous, non, parce que vous êtes arrivé pour vos études, oui. Mais alors, du coup, d'où ma question, est-ce que c'est... Quand on repart, vous avez moins la possibilité, si jamais vous échouez, de revenir en France comme solution de repli ?
C'était la crainte, c'était la grosse peur. Et je peux vous dire que les 6 premiers mois n'ont pas du tout été faciles. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui m'a hanté au début. Et puis, ça s'est dissipé au fil du temps. Au fil du temps, je voyais que je construisais des choses et je ne voulais plus repartir.
Vous ne regrettez pas un seul instant aujourd'hui d'être parti sur le continent africain ?
Je ne regrette pas un seul instant. Il y a 3-4 mois, Canal+ m'a proposé une promotion pour retourner vivre à Paris et j'ai dit non. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais finalement très attaché à ce continent. Ouais. Que, que bon. Je pensais au,
on essaye de vous garder, on essaye de vous garder en ligne avec nous, Jean-Luc Agboyibo, parce que votre témoignage est extrêmement intéressant. Vous êtes aujourd'hui à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Vous êtes togolais. Patricia Kaku, Kountel Kahn et Jean-Baptiste Meyer. Bien sûr, vous restez avec nous dans le studio de RFI et à Montpellier. Suite de notre discussion sur les repas, juste après le flash, dans 3 minutes. Garde voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Nous parlons aujourd'hui chez 7 milliards de voisins des repats, ces jeunes qui ont quitté leur pays pour suivre leurs parents lorsqu'ils étaient enfants ou pour étudier. Et ils ont décidé de rentrer au pays ou en tout cas de rentrer sur le continent africain pour y bâtir un projet professionnel. On en discute avec vous Patricia Kaku, avocate au barreau de Paris, repartie en Afrique, au Cameroun qui n'est pas votre pays d'origine, pour fonder un cabinet de conseil juridique à Douala qui s'appelle Ahead. Mais vous auriez... Exactement, vous avez pu monter ce cabinet à Abidjan, hein, finalement.
Oui, tout à fait.
Vous avez
c'est en projet.
C'est en projet aussi. Vous avez des origines ivoiriennes. Kountel Kahn, vous êtes née en France. Pas tout à fait une repate, quoique vis-à-vis de vos compatriotes d'origine, hein, puisque vous êtes de parents maliens. Vous travaillez à Bamako pour une ONG allemande. Vous nous direz comment vous vous sentez perçue dans votre travail, notamment. Okay. Jean-Baptiste Meyer, qui est directeur de recherche à l'IRD, spécialiste des migrants. Et on a aussi toujours au téléphone Jean-Luc Agboyibo, togolais, qui travaille à l'heure actuelle à Abidjan, à cheval entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Je vous lis le message d'Asmaou à Conakry en Guinée. Pendant longtemps, l'Afrique s'est plainte de la fuite des cerveaux. Si nos jeunes talents décident de revenir investir dans le pays, cela montre que l'Eldorado n'est plus en Occident. Nos jeunes reviennent plus compétents que jamais. Vous avez le sentiment, tous, là, de... finalement, par votre parcours, par votre histoire, d'impulser un message positif pour le continent ou pas, Patricia Kaku?
Alors, je partage tout à fait ce commentaire parce que je pense qu'il est essentiel lorsqu'on a reçu de donner en retour. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit la question des migrants, qui est une question forte de l'actualité, le fait de revenir et de montrer qu'une réussite est possible en restant sur le continent, c'est un message très fort envers ces jeunes, ces personnes qui, au péril de leur vie, prennent des bateaux souvent que ça se termine dans des conditions extrêmement tragiques.
D'autant plus que vous avez monté votre entreprise.
Oui, hein. Tout à fait.
Donc, vous témoignez de la... c'est possible.
C'est très possible. Ouais. Et surtout, effectivement, aujourd'hui, l'Afrique est vue comme un Eldorado. Donc, il y a effectivement un changement à ce niveau-là. Au lieu que moi, en grandissant en France, c'est vrai que l'Afrique était plutôt regardée comme le continent pauvre, les guerres. Donc, pas toujours un message très positif. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a des entreprises françaises étrangères qui ont cette ambition de monter des projets en Afrique et qui regardent dans ce sens-là, parce qu'il y a des potentialités.
Comment vous vous sentez considérées déjà, toutes les deux, finalement, que ce soit en France ou au Mali pour Kountel et au Cameroun pour vous, Patricia?
Alors moi, je pense que déjà, le terme repate recouvre différentes réalités parce que effectivement, dans mon cas, je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. Mais je dirais que j'ai grandi, je me suis faite forger en France, donc avec une culture très, très française. Kountel est, elle, née en France, donc elle a quasiment connu que ça, même si elle a fait des séjours. Et puis, il y a le cas
De Jean-Luc Agboyibo,
lui, n'était pas... qui a connu la France plus tard et qui est reparti.
Enfin, le regard est... Il y a deux types de regards. Il y a le regard des gens qui sont contents de nous voir là-bas, ou même ici, hein, qui nous disent « Ah, c'est bien de partir au pays, d'essayer de faire des choses, de s'établir là-bas. Après, il y a les autres qui ne comprennent pas pourquoi on est là-bas. Plusieurs fois, j'ai eu ces questions-là. On ne comprend pas. On me dit que tu quittes... parce qu'on voit aussi... Il y en a qui ont toujours cette image de l'Eldorado en Europe. Moi, j'y suis allée. Moi, je me considère...
Ceux qui ne comprennent pas, c'est
ceux qui
ne
comprennent pas, même des collègues qui ne comprennent pas.
Des collègues où, alors
À
Bamako ?
À Bamako, oui. Ou sinon, même...
Des collègues maliens, donc.
Des collègues maliens.
Mais quelle drôle d'idée tu as eue, c'est ça ?
Oui, pourquoi tu viens ? Et en plus, après, il y a aussi cette idée de salaire. Mais bon, Après, c'est pas le même niveau de vie là-bas. Je peux gagner peu, mais plus épargné, par exemple. Il y a moins de dépenses. Ici, je peux gagner plus.
Alors mais, ici en France. Hein.
Ici en France. Ici, je peux gagner plus, mais ne rien pouvoir faire avec ce que je gagne. Et c'est ça tout le problème. Moi, je me considère comme une migrante économique. Hein. Sincèrement, je suis partie pour des raisons économiques.
Franco-malienne, migrante économique, partie au Mali parce que vous galériez, en
parce
fait,
que je galérais,
pour j'avais trouver un emploi qui vous intéresse en France.
Oui, qui m'intéresse.
Et à la mesure de vos diplômes également.
Tout à fait. J'avais un master. Ce qu'on me proposait, c'était des contrats précaires. Enfin, une situation pas très confortable au Mali. Après, grâce à Dieu, j'ai pas du tout utilisé le réseau. J'ai postulé à une offre d'emploi sur le site ANPE malien. Et donc, j'ai postulé, j'ai été retenue, j'ai passé tout le processus de recrutement. Et en plus, j'ai pu facilement évoluer. C'est-à-dire, je suis rentrée en tant qu'assistante de programme. Et à la suite de cela, j'ai montré mes preuves et donc là, maintenant, je suis chargée de programme.
Alors, vous êtes nombreux à dire « ça va vite quand on est bon, on monte vite ». C'est vrai ou pas, ça ?
Oui, oui, je partage tout à fait cet avis-là.
Quand on est rentré en Afrique. Hein.
Oui, et puis, en fait, avoir été formée en Europe ou ailleurs, en dehors de l'Afrique, c'est une très belle carte de visite. Donc, on a déjà une marque de confiance. À tort ou à raison. Mais effectivement, c'est déjà un ticket d'entrée.
À tort ou à raison ? Pourquoi dites-vous cela ?
Oui, parce que bon, j'ai envie de dire, si on est quelqu'un de rigoureux, qu'on soit en Afrique ou en Europe, ça se vérifiera par la réussite. Mais bon, c'est pas parce qu'on a été en France qu'on est forcément meilleur que quelqu'un qui a uniquement évolué sur le continent.
Est-ce que parfois on vous fait sentir cela, des Africains dans le pays où vous êtes installé, vous pourrez vous dire par exemple, mais vous prenez nos places, il y a un énorme chômage des diplômés quand même sur le continent où vous êtes rentré.
Moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Et puis là-bas, je suis là-bas en tant que malienne. Hein. J'ai un contrat local, donc j'ai la double nationalité. Mais ce qui est intéressant, Patricia a
beaucoup
parlé...
Beaucoup de Maliens souhaiteraient avoir le poste que vous avez dans votre ONG allemande à Bamako.
Oui, mais fallait postuler. J'ai envie de dire ça.
Et passer les sélections.
Passer les sélections.
Voilà. Jean-Luc Agboyibo, vous êtes toujours en ligne avec nous à Abidjan.
Je suis toujours là.
Ouais. Quelles sont vos difficultés d'intégration sur le plan professionnel, vous qui êtes parti en France faire des études et revenu sur le continent africain ?
On va dire qu'au Togo, je n'ai pas eu vraiment de problème d'intégration, enfin, aussi bien au sein de l'entreprise qu'auprès de la population. Étant donné que je parle la langue locale, ça m'a facilité les choses. La difficulté qu'on peut ressentir en étant repatrié, comme vous dites, je l'ai plus ressenti quand je suis allé à Abidjan. Là, tout de suite, on m'a catalogué quelqu'un qui vient de France. Donc, quand je disais que j'étais togolais, on me faisait comprendre que j'étais un Français. Et comme ils disent ici, on les appelle les benguistes. Donc voilà, donc ça a été plutôt le challenge à Abidjan, c'est de prouver qu'on est africain, de prouver qu'on est prêt à s'intégrer et qu'on n'est pas un petit Français qui vient en Afrique. Donc la difficulté était plutôt à Abidjan, s'intégrer à Abidjan.
Sur le plan des méthodes de travail, sur l'exercice de votre métier au quotidien, quelles sont vos difficultés ?
Alors, je suis venu à Abidjan pour travailler pour une entreprise française, donc c'était pas compliqué. Après, d'autre part, pour mon organisation que j'ai montée, là, c'était un peu plus délicat de travailler avec des locaux. J'ai une dizaine de personnes qui travaillent avec moi. Il faut juste trouver le bon milieu. Ils ont leurs habitudes et il faut essayer d'apprendre les uns des autres.
Ça veut dire quoi, ça, concrètement ?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui arrivent en retard, qui n'ont pas des bilans à l'heure. Et voilà, donc c'est une culture, c'est des petites choses à améliorer, il faut trouver les bons profils. Et je pense que certains pensent qu'on vient apprendre leur métier, et c'est pas le cas, c'est juste qu'il faut se mettre au niveau, il y a des normes à avoir, donc petit à petit, enfin moi de mon côté, j'essaie de leur apporter ce que j'ai appris en Occident, un peu plus de rigueur, et eux essaient de m'expliquer comment le continent fonctionne. Et je pense que c'est ça la vraie difficulté des gens qui reviennent de l'extérieur, ils pensent souvent tout savoir et ils n'essaient pas de découvrir, de rester à l'écoute de la population parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Mmh. L'Afrique est un continent à part et je pense qu'il ne faut pas essayer de juste répliquer les choses qui sont en France, de venir avec des idées reçues et de chercher à apporter des choses. Il faut aussi être à l'écoute.
C'est une question compliquée pour vous également, Patricia Kaku et Kuntel Khan, le travail au quotidien, la cohabitation avec des collègues qui n'ont jamais quitté le continent africain sur le plan des méthodes de travail par exemple ou c'est pas un sujet en soi.
Alors je rejoins Jean-Luc dans le sens où il faut effectivement être à l'écoute les uns des autres. Quand on vient imposer ces méthodes et qu'on pense qu'on fait mieux, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on se retrouve dans un rapport de confrontation. Et au contraire, effectivement, il faut montrer qu'on n'est pas là pour prendre la place des autres, mais pour apporter des choses, pour avancer ensemble. C'est un projet commun qui doit être commun. Mais effectivement, il y a un problème de recrutement, de ressources humaines en termes qualitatifs et des exigences qu'on peut avoir lorsqu'on a travaillé en France.
Moi, je ne travaille pas dans ma propre structure, ce qui fait que je n'ai pas ce type de problème-là. C'est une ONG qui est établie depuis presque 50 ans au Mali. Et le personnel, la plupart des membres du personnel ont déjà vécu à l'extérieur. Ce qui fait que c'est une autre approche. Et je pense que j'ai cette chance-là. Je pense que si j'avais eu à travailler dans un environnement 100% malien, j'aurais eu peut-être plus de difficultés que dans cette atmosphère-là.
Vous nous appelez les voisins, les voisines. Il y a des repats qui cherchent à passer à l'antenne et à livrer leur témoignage au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Martial qui est à Cotonou, au Bénin. Bonjour Martial.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 43 ans. Oui, vous êtes un repat, voilà. C'est bien cela. Vous êtes né à Abidjan?
Je suis né à Abidjan, j'ai étudié à Abidjan, j'ai fait une licence à Abidjan, après laquelle je suis parti à Londres pour faire un master en finance comptabilité. Donc j'ai été gradué, comme on le dit, en 2004. Deux ans après, je suis rentré en Côte d'Ivoire pour prospecter de nouveaux horizons. J'ai pu m'insérer, j'ai pu avoir un emploi à Abidjan, après lequel j'ai postulé à une offre sur le Bénin.
D'accord.
Je me suis retrouvé expatrié au Bénin.
C'est ça. Et alors tout à l'heure, Kuntel nous disait, mais moi je me considère comme une migrante économique, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Née en France, mais revenue au Mali, le pays de ses parents. Vous, quelles ont été vos motivations?
Ma motivation était, en fait, quand j'allais à Londres, c'était juste pour finir un diplôme pendant 2-3 ans, en fait, prendre de l'expérience anglaise. Retourner en expérience là au profit de l'Afrique. Parce que, faut pas que tout ça se passe, faut pas que ce soit toujours les Africains qui partent en Europe, qui installent sans toutefois faire partager en retour aux autres Africains qui sont restés ici les connaissances qu'ils auront acquises en Europe.
C'est ce qui vous animait le plus dans vos motivations. Merci Martial. D'autres repats souhaitent livrer leur témoignage. Moussa est à Dakar. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Emmanuel. Comment vas-tu?
Très bien. 50 ans, repat, né à Bordeaux. C'est ça votre parcours?
Tout à fait. En fait, donc binational. Moi, mes parents sénégalais.
Oui.
Donc, ayant fait mes études. J'ai grandi quasiment. J'ai passé toute mon adolescence au Sénégal.
Oui.
Mon père était médecin, donc après mon bac, je suis revenu à Bordeaux, j'ai fait des études. Et puis finalement, j'ai travaillé sur Paris pendant une vingtaine d'années, dans une compagnie d'assurance, en tant que cadre. Et puis à un moment donné, moi, ce qui m'a motivé pour revenir en Afrique, hein, parce que je n'avais pas visé spécialement au Sénégal, c'était plus, à un moment donné, dans mon entreprise, les possibilités d'évolution étaient déjà assez restreintes. Même si j'étais cadre... accéder à des postes de direction, ça semblait un peu compliqué.
Le plafond de verre dont on parlait tout à l'heure, avant le flash?
Voilà, moi je l'ai rencontré, concrètement, et donc à un moment donné, je me suis dit, il faut trouver une solution. Et puis donc j'ai recommencé à repartir très souvent, une fois en vacances, j'y allais 4-5 fois au Sénégal, histoire de reprendre contact. En fait, c'est quelque chose qui s'est mûri, un projet qui s'est mûri, qui a mis du temps à se mûrir. Avec des amis aussi qui m'ont aidé, qui m'ont dit « Écoute, ce serait bien que tu reviennes, etc. » Et donc, je suis venu, j'ai passé des entretiens et j'ai eu la chance d'intégrer une compagnie d'assurance où j'ai un poste de direction que je n'ai pas pu avoir en France.
Oui.
Et avec des possibilités de développement, puisque moi je suis dans l'assurance vie, un marché qui est très balbutiant en Afrique. Voilà, donc
vous avez le sentiment finalement là de faire exploser votre carrière en revenant sur le continent africain.
Tout à fait, et puis d'apporter, je pense, quelque chose, en fait, de contribuer à, en fait, je ne voudrais pas être responsable social, mais
plus,
au moins de rapporter.
Un plus pour vous et un plus pour la communauté. Et dans les moins, alors ?
Les points négatifs, bon, on a l'impression que c'est vrai que quand on vient d'Europe, que le rythme de travail est différent. Bon, moi, c'est des compagnies, quasiment, moi, tous mes collègues ont presque eu le même parcours que moi, que ce soit ici ou à l'étranger. Donc, les moins sont en fait, il n'y a pas plus de moins que ce que je rencontrais quand je travaillais dans ma compagnie à Paris. Il n'y a pas plus de moins. Je veux dire, pour moi, c'est quasiment la même chose, si ce n'est que, bon, c'est au niveau des mentalités, par rapport à nous, ce qu'on propose en termes de produits d'assurance, qu'il faut ouvrir les gens. C'est là que le challenge se situe. Mais ce n'est pas dans la manière de faire, ni dans la manière de travailler. Non, voilà. Bon, par contre, bon, une qualité de vie exceptionnelle. Je retrouve des amis d'enfance, la famille est là. Voilà. Et on participe socialement, c'est-à-dire qu'on est au courant des décès, on est au courant des mariages, on est au courant. Voilà, donc il y a cette chose.
Vous vous sentez vraiment intégré à la société sénégalaise, finalement, tout en étant né en France?
Ah, tout à fait. Ouais. Bon, et puis bon, je parle quand même la langue, hein, parce que souvent, il y a des franco-sénégalais qui ne parlent pas wolof. Donc c'est vrai que ça peut aussi
bien sûr. Être un frein. Merci beaucoup, Moussa, de nous avoir appelés. Je voudrais donner la parole à Jean-Baptiste Meyer, chercheur à l'IRD. Peut-être d'abord quelques réactions par rapport à tout ce que vous avez entendu.
Oui, tout d'abord, vous noterez qu'il y a un facteur sentimental qui est très important dans le motif de retour ou d'attraction vis-à-vis du pays. Je vois que Moussa mentionnait les amis, la famille, les amis d'enfance. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui est très important que nous avons noté dans plusieurs enquêtes que nous avons faites, alors surtout sur l'Amérique latine, mais je pense que c'est valable dans bien des pays, que ce soit en Asie, en Afrique également, où ce qui attire, c'est un côté affectif. Et on retourne beaucoup plus pour ces raisons-là que pour des raisons strictement professionnelles. Alors maintenant, avec l'émergence de ces pays, maintenant qu'on qualifie plus d'émergents qu'en développement pour une partie significative d'entre eux, il y a sûrement aussi un espace économique qui offre beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Et là, ça démultiplie cette volonté de retour parce qu'elle se combine donc avec à la fois l'opportunisme utile et la volonté de contribuer au développement du pays, et en plus, ce facteur affectif extrêmement important. Alors, sur ces changements, le fait que l'Afrique serait devenue un Eldorado, c'est évident qu'il y a des modifications de macroscopiques, on dit en jargon scientifique, c'est-à-dire à l'échelle générale et de l'ensemble de la société. Mais il ne faut pas les exagérer, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des conjonctures qui sont très variables. En ce moment, vous savez que des pays africains, comme le Brésil en Amérique latine ou l'Argentine en Amérique latine, souffrent des conjonctures, au contraire, un peu régressives et qui sont susceptibles d'affecter les flux migratoires d'une autre façon que ces dernières années où il y avait beaucoup de retours et beaucoup de migration vers ces pays-là. Enfin, un point important, c'est dans le motif, on verra que Aziz Nafa, qui depuis Alger a examiné, observé le cas des entrepreneurs qui retournent en Algérie ou qui à distance contribuent au développement de l'Algérie depuis la France ou depuis l'Europe, eh bien, il a classé les motivations entre ceux qui rentrent pour des raisons professionnelles, ceux qui rentrent pour des raisons familiales.
Justement, Aziz Nafa est en ligne avec nous, hein, justement, Jean-Baptiste Meyer. Restez
voilà,
avec
je lui tends la perche.
Voilà, Aziz Nafa, bonjour, vous êtes en direct d'Alger.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être chez 7 milliards de voisins. Alors, vous êtes chercheur au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, le CREAD à Alger. Vous avez surtout enquêté sur ces Algériens qui reviennent pour monter leur entreprise. Hein. Vous avez travaillé à peu près sur 170 parcours. Des Algériens qui sont partis soit lorsqu'ils étaient enfants, soit lorsqu'ils étaient étudiants pour étudier en Europe. Comment se réintègre-t-il finalement en Algérie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous observez sur ces parcours?
Alors, effectivement, j'ai enquêté 170 individus, essentiellement des chefs d'entreprise qui sont en activité ou ayant l'intention d'entreprendre en Algérie. Ces entrepreneurs sont issus effectivement d'immigration, puisque pour certains, ils ont immigré dans le cadre du regroupement familial très jeune, ou bien ceux qui ont émigré après avoir effectué leurs études en Algérie, puis parti poursuivre leurs études en France ou ailleurs. Alors, leur motivation, nous avons répertorié des motivations de retour qui sont diverses, mais pour l'essentiel, ils reviennent pour des raisons émotionnelles ou pour des raisons d'opportunité.
Les raisons émotionnelles, on en a beaucoup parlé pendant l'émission, les opportunités économiques aussi, mais la question centrale, là, dans un pays comme l'Algérie, c'est comment parviennent-ils à monter leur entreprise quand on connaît les difficultés des fameux diplômés chômeurs algériens eux-mêmes, qui sont parfaitement intégrés. Comment y parviennent-ils? Quelles sont leurs difficultés? Vraiment en quelques mots, Aziz Naffar, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, il y a encore des auditeurs qui souhaitent témoigner.
D'accord. Désolé, j'ai pas pu suivre l'émission sur Internet, on en a un problème technique. Alors,
c'est intéressant que vous nous disiez ça, oui.
Effectivement, nous avons, pour les entrepreneurs qui reviennent, ils trouvent des difficultés essentiellement au niveau administratif. Nous ne sommes pas en présence de personnes qui reviennent dans le cadre de salariat, mais plutôt de l'entrepreneuriat. Comme nous le savons tous, effectivement, la catégorie la plus touchée par le chômage, c'est des diplômés algériens qui avoisinent les 18%. Mais pour le cas des entrepreneurs issus de la diaspora, ils ne trouvent pas de difficulté à s'insérer économiquement dans la société. Ils sont plutôt dans une approche entrepreneuriale, ils sont plutôt dans une approche de développement d'activités plutôt orientée innovation sur des secteurs nouveaux. Leur difficulté est essentiellement administrative ou d'accompagnement, puisque pour la plupart, afin de parer aux obstacles administratifs, ils préfèrent être accompagnés par des personnes ou par des professionnels, par des amis ou en faisant appel à des réseaux diasporiques ou autres. Ces personnes anticipent ces difficultés en se faisant effectivement accompagner. Je vous citerai le choix de l'investissement de capitaux, il s'oriente essentiellement vers l'autofinancement. Ceci leur permet de gagner du temps,
d'être plus autonome, de ne pas attendre des aides de l'État. Justement, Jean-Baptiste Meyer, est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays qui sont conscients de la valorisation de leur diaspora et qui facilitent des politiques du retour? On se souvient de l'appel du président Ouattara lors de son premier mandat en Côte d'Ivoire, qui disait clairement aux Ivoiriens à l'étranger, revenez, le pays est plus stable, même si derrière, il n'y avait pas forcément un programme très structuré. Mais est-ce qu'il y a une volonté de ces pays d'origine de la migration de faire revenir ces repates?
Oui, il y a cette volonté à peu près dans tous les pays du monde aujourd'hui. Je reviens sur ce que disait Aziz Naffar. Il y a à la fois donc un chômage des jeunes diplômés, vous le disiez Emmanuel, c'est très important, mais vous voyez que l'entrepreneuriat de la diaspora, il dépasse en fait ces conditions structurelles du pays, puisque ce sont de nouvelles activités qui peuvent être impulsées par cette diaspora et qui ouvrent un nouveau champ d'activités, d'initiatives économiques qui peuvent créer de l'emploi. Alors ça c'est tout à fait prometteur. Les pays l'ont bien compris et la plupart d'entre eux ont des politiques en cette faveur. Le Maroc en a, l'Algérie également, depuis plus tardivement, mais a également ce type de politique, de même que la Tunisie pour le Maghreb.
Et pour l'Afrique subsaharienne.
Et bien entendu, pour l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de pays, et le Mali en fait partie, qui depuis longtemps ont des dispositifs institutionnels pour prendre en compte la diaspora. Maintenant, est-ce que c'est efficace? pas toujours, parce que pour des tas de raisons, les administrations ne le sont pas forcément, et Aziz Naffa mentionnait bien toutes les résistances de la bureaucratie, on le sait, mais aussi parce que la diaspora, ça n'est pas une entité nationale proprement dite. Donc elle ne peut pas
Et encore faut-il qu'elle soit constituée en réseau, et de pouvoir les toucher, et de pouvoir les joindre.
Oui, tout à fait. Elle est souvent dans des réseaux qui peuvent être très fragmentaires et qui posent des difficultés à un interlocuteur institutionnel national du pays d'origine pour entrer en relation avec.
Et merci beaucoup, Jean-Baptiste Meyer. On arrive au terme de cette émission. On aurait voulu donner la parole à Sidi. Malheureusement, vous étiez assez nombreux, mais Sidi était né au Mali. Il est venu en France pour faire des études et puis il est retourné au Mali. Et puis finalement, il est reparti en France parce que, a-t-il dit au Standard, il se sentait trop européen et plus vraiment de chez lui. Avant qu'on se quitte, l'une et l'autre, là, Patricia Kaku et Kuntel Khan, un conseil, vraiment en quelques secondes, aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être à des compatriotes qui se disent « Tiens, moi aussi, j'aimerais bien repartir sur le continent africain. » Quels seraient vos conseils, Kuntel Khan ?
Tentez votre chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Beaucoup de gens autour de moi aimeraient tenter l'aventure. Il faut tenter.
Et pour vous, Patricia Kaku ?
Je partage complètement cet avis. Ça, c'est une expérience humaine avant tout. Donc effectivement, il faut se jeter à l'eau.
Prendre le risque.
Voilà, prendre le risque. Le risque de réussir.
Merci à vous tous. Patricia Kaku, Kuntel Khan, Jean-Baptiste Meyer, Jean-Luc Agboyibo. Merci aussi à Aziz Naffa à Alger. Merci à vous, les voisins, les voisines, et à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néron, Pauline Leduc, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins. Rediffusion de l'émission sur la virginité. Qu'est-ce que la virginité aujourd'hui ? Choisie ou subie ? Que dit-elle sur les relations hommes-femmes ? Débat et point de vue dans l'émission. Ce sera demain à 10h10, temps universel. 12h10, heure de Paris. À demain les voisins et les voisines.